Aujourd'hui, le sujet qu'on va voir, c'est pourquoi Dieu permet-il les épreuves envers ses enfants? Parce que dans les théories de la Nouvelle Évangile, la théorie mais c'est une théorie, c'est comme une doctrine de la prospérité, que si tu acceptes Jésus, tout va aller bien. Tout va aller bien, tu n'auras plus de problème, puis même on va tous devenir riches.
Non, non.
Moi, j'ai pas vu ça encore. Spirituellement, oui. On est enrichi de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Mais physiquement, est-ce que tous les chrétiens deviennent prospères? Physiquement, parlant à travers la planète, on peut en nommer plus que, il y a plus de chrétiens qui ont de la misère à se nourrir présentement que des chrétiens dans l'abondance comme nous sommes. Ici, on mange 3 plats par jour. Dans le tiers-monde, dans les pays pauvres, ils mangent même pas un repas par jour. Puis quand on parle de repas, on parle pas tout ce qu'on a dans notre assiette, nous. Les autres, c'est juste un bol de riz, ils ont même pas ça. Juste du riz avec aucune sauce dedans, aucun morceau de viande. Ils ont même pas ça une fois par jour. On peut-tu parler de prospérité? Pas du tout. Il y a plus de chrétiens sauvés dans ces régions-là qu'ici. Il y a plus de chrétiens qui ont de la misère financièrement que des chrétiens dans l'abondance ou dans la richesse qui nous sort par les oreilles. Fait que la doctrine de la prospérité, qu'il t'arrivera rien, tout va aller bien, puis tu vas être dans la riche, puis tu n'auras plus de problème, c'est tout faux. Jésus a jamais promis cela, ni les apôtres. Ça fait partie de la nouvelle évangile des derniers temps. De la fausse évangile. Mais là, on réalise, je suis sûr que vous avez réalisé aussi dans vos vies que vous avez eu des problèmes depuis que vous êtes chrétien. Es-tu un chrétien qui n'a pas eu de problème? Levez votre main ceux qui n'ont pas eu de problème. Pourquoi donc Dieu, c'est le Tout-Puissant, puis c'est le Créateur de toutes choses, puis tout ce qui est à lui, il va en prendre soin, puis il a des promesses qu'il dit qu'il va prendre soin de nous. Pourquoi qu'il permet qu'on ait des problèmes? Ah, il y a peut-être des bonnes raisons d'en avoir des problèmes. Dieu se sert de tout autour de nous pour essayer de nous parler, puis essayer de nous amener à ressembler à Jésus. C'est ça qui est le but. Puis il veut nous amener à entrer dans la vie éternelle. Il va tout faire pour qu'on puisse y aller. Parce que le salut est par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. Je l'ai pris. Mais pas juste aujourd'hui, il faut que je le prenne. Il faut que je le garde, ça, cette foi-là, jusqu'à temps que je quitte ce monde. Je reste accroché à marcher par la foi. Fait que là, Dieu, des fois, est obligé d'utiliser les affaires autour pour nous parler, pour nous façonner, pour nous amener à... Pourquoi il y a tant de problèmes parmi les chrétiens? Peut-on échapper à toutes nos épreuves?
Non.
C'est ça. On peut-tu y échapper? Parce qu'on aimerait y échapper. Qui aime ça avoir de la difficulté? À part que les masochistes, il n'y a pas grand monde qui aime ça avoir des problèmes. Ceux qui aiment à se fouetter puis à se flageller, eux autres, ils aiment ça avoir des problèmes. Ils aiment ça avoir mal. Mais en général, personne n'aime souffrir. Les problèmes sont là. On n'aime pas les avoir, puis Dieu permet qu'on ait. Là, il faut comprendre pourquoi. Y a-t-il un but à tout cela? Contrairement à ce qu'on pense, Dieu veut que l'on apprenne à voir les épreuves positivement. C'est sûr que si on est du genre à critiquer, mais des fois, on peut passer notre vie à critiquer, on n'est jamais content, puis tout va mal, plus qu'on critique. Plus qu'on critique, plus que ça va mal. On peut rester dans la critique toute notre vie, mais c'est pas le plan de Dieu. Dieu veut qu'on regarde les difficultés, les problèmes, les combats, les luttes, les souffrances, les afflictions. Tout ce qui nous arrive, il veut qu'on regarde ça positivement. Dans Pierre 1, 6 et 7, Pierre est en train de parler dans ce sujet-là. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il dit, il faut qu'il soit attristé par diverses épreuves. C'est quelque chose que tous les chrétiens, c'est normal, on va avoir des épreuves à subir. C'est ce qu'il est en train de dire. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été éprouvée par le feu, là, il dit que notre épreuve de notre foi, les diverses souffrances qu'on est en train de vivre, les épreuves, les combats, les luttes, les difficultés qu'on a, c'est plus précieux que de l'or. Comment est-ce qu'il y a le monde aujourd'hui qui court les magasins pour s'acheter des bagues en or, des colliers en or, des boucles d'oreilles en or, des piercings en or? Il y en a qui sont remplis, là, de la tête aux pieds, en ont même après les orteils des bagues avec des, en or puis tout. Parce que c'est important, ils trouvent ça précieux, ils trouvent ça beau, puis ils se sentent équipés, puis ils se sentent riches, puis ils se sentent importants. C'est comme si l'or qu'ils ont sur eux les amène d'une autre dimension, puis ça les élève. Puis là, Pierre est en train de nous dire que ce qui fait votre joie, oui, on a de la joie dans le Seigneur, c'est la joie d'être sauvé, mais il faut qu'on soit éprouvé, qu'on ait des épreuves, parce que les épreuves, c'est plus précieux que de l'or. C'est quelque chose. Le Dieu veut nous amener à voir les épreuves positivement. C'est plus précieux que tout l'or que vous avez à votre disposition. Moi, j'en ai pas d'or, ça m'intéresse pas. Les épreuves, je peux pas dire que j'aime avoir des épreuves, mais quand qu'on a, faut apprendre à rendre gloire à Dieu, à remercier le Seigneur de ce qui nous a jugé digne de subir des outrages pour Jésus. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on vit comme épreuve, c'est plus précieux que de l'or. Si on regarde juste aux choses de la terre, on va dire, il est fou, il pense que avoir de la souffrance, puis des peines, puis des malheurs, puis des épreuves, qu'il pense que c'est bon. Moi, les gens vont dire, j'aime bien mieux être assis sur le bord de l'eau, d'un palmier dans le sud, dans la sphère grillée. Oui, c'est vrai qu'humainement parlant, c'est mieux. Mais on n'est pas ici pour se faire griller, on est ici pour se ramasser un trésor dans les cieux. Il faut regarder avec la perspective biblique. La celle de Dieu, ce qu'on est en train de vivre présentement, ce que nous traversons comme souffrance, comme difficulté, comme épreuve, Dieu se rappelle de tout ce que vous avez vécu. C'est lui qui les a permis afin que vous soyez enrichis. Quand vous allez arriver l'autre bord, vous allez dire, waouh, comment se fait que j'ai tout ça? Mais il dit, c'est à toutes les fois que tu as souffert pour moi, puis tu m'as glorifié. Mais tout ça, ça le produit de quoi de bien plus beau que de l'or. Ce que tu as là. Ça va être bien plus que de l'or parce que l'autre bord, l'or, c'est de l'asphalte. Dans le ciel, la ville sainte, les rues sont pavées d'or. L'or, c'est de l'asphalte. Fait qu'il y a de quoi encore bien plus beau que de l'asphalte. Mais qu'on arrive là au bord, ce que Dieu va nous donner comme richesse, on va dire, waouh! On a de la misère à s'imaginer ça, là. Dieu nous demande de lui donner notre vie, puis on trouve ça bien précieux. On a de la misère à lui donner notre temps, notre argent, nos efforts, puis servir Dieu. On a de la misère. C'est pas tout le monde qui aime ça. Puis il y en a qui le font, mais il y en a qui ont de la misère. Puis là, Dieu nous appelle à se donner, puis d'y faire confiance, parce qu'il y a de quoi de big qui s'en vient. Il y a de quoi de gros qui s'en vient. Mais qu'on soit rendu l'autre bord, on le croira pas, on va le croire, on va le voir, mais on va dire, waouh, c'est extraordinaire. On va voir dans un verset, ah oui, puis dans ce verset-là, ça nous dit, les épreuves, c'est plus précieux que de l'or. Mais même l'or a été éprouvé par le feu. Pour que l'or devienne plus précieuse, elle augmente en carats, plus pure en carat, il a fallu qu'elle soit chauffée. C'est le fait qu'elle soit chauffée, elle a fondu, elle a bouilli, puis ce qui n'est pas de l'or dans l'or flotte en surface, puis enlève la scorie. Il enlève les scories qui est de l'or en la chauffant, puis plus qu'elle est chauffée, plus qu'elle devient pure, cette or-là, plus qu'elle devient chère, qu'elle vaut cher, plus qu'elle a de la valeur. Mais il dit, même l'or a été chauffé pour prendre de la valeur, mais il dit, vos épreuves, c'est ce qui vous chauffe pour prendre de la valeur et vous enrichir pour la vie éternelle.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. On va voir que le fait de chauffer l'or, c'est important pour l'aider à se transformer en un or de plus en plus pur, mais c'est la même chose pour nos vies. Dieu permet les épreuves dans le but de chauffer les chrétiens pour qu'ils deviennent plus purs. J'ai tué un ouch. Un ouch, oui, amen. Les épreuves ont pour source plusieurs endroits. Il y a plusieurs raisons pourquoi qu'on souffre. Mais l'important, c'est pas pourquoi qu'on souffre, c'est de souffrir consciemment, puis d'accepter que ça arrive parce que c'est Dieu qui permet que les choses sont là, puis de rendre gloire à Dieu dans ces situations-là. Ça change notre attitude. Une des premières raisons, puis je dirais la première raison pourquoi il y a des épreuves.
C'est en remettre à Dieu.
Ouais, pas qu'est-ce qu'on doit faire, mais pourquoi que je souffre? Pourquoi j'ai des épreuves? Bien, la première raison pourquoi qu'on a des épreuves, c'est parce que vous êtes vivant. C'est tout simple que ça. Tous les humains sur la terre ont des épreuves. Il n'y a pas un humain qui n'a pas eu une épreuve dans toute sa vie. T'es venu au monde dans une terre maudite par Dieu. On n'est pas dans le paradis, là. On a été chassé du paradis. On vit dans un pays sous la force de peine qu'on doit tirer notre nourriture tous les jours de notre vie. On est dans une terre maudite où il y a des épines et des ronces, puis c'est à force de peine qu'on doit travailler pour notre nourriture. De la peine, mais ça fait pas de la peine, c'est de la difficulté, des problèmes. Puis ça fait partie des épreuves de la vie, de l'effort à produire pour se nourrir. Puis ça fait partie de la malédiction que tout le monde a reçue à cause qu'on est tous des descendants d'Adam et Ève. Fait que la première raison pourquoi qu'on a des épreuves, c'est parce qu'on est vivant, on existe, on est là. Dans Genèse, je vous l'ai mentionné verbalement, 3, verset 17, c'est là que ça nous dit que c'est à force de peine que tu vas tirer de la nourriture de tous les jours de ta vie. Puis que le sol sera maudit à cause d'Adam et Ève. Puis là, on subit ces choses-là. Puis il n'y a pas un humain qui peut s'en échapper. Un deuxième endroit où ce que les épreuves proviennent, c'est des attaques directes du diable. Puis ça, tout le monde sur la terre en a. Qu'il en prenne conscience ou non, tout le monde a eu des combats, des luttes, des problèmes, des difficultés à cause du diable et ses démons. Pourquoi? Mais parce qu'on est dans son camp ici. La terre lui a été donnée. Il règne sur la terre. C'est le prince de ce monde des ténèbres. Le diable et ses démons règnent sur la surface de la terre et l'ensemble des humains sur cette planète est sous sa domination. Le monde entier est sous la puissance du malin, que ça nous dit dans la parole. Puis il règne sur tout le monde, sauf
les enfants
de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit qu'il nous a changé de camp. Il nous a transportés du royaume des ténèbres à son royaume de la lumière. Quand tu changes de camp, c'est quand tu acceptes Jésus-Christ, il te change de camp. Tu es pardonné de tes péchés, puis là, il te sort de là, puis là, tu es rentré dans le royaume de la lumière, sauf t'as encore les deux pieds sur la terre. Puis là, tu es un royaume qui combat contre un autre royaume. C'est quel royaume? Le royaume de Dieu qui combat contre la puissance des ténèbres. Puis veut, veut pas, quand qu'on se bat, mais il y a des attaques, puis des contre-attaques, il y a des coups qui s'échangent, puis il y a des blessures, puis des souffrances, puis il y a l'autre qui enfarge l'autre, puis il y a toutes sortes de problèmes pour nous rendre ça plus difficile. Il n'y aura pas de facile, il n'y a pas de guerre. Une guerre, c'est parce qu'il y a un conflit, puis le conflit dégénère en s'attaquer, puis se contre-attaquer, puis on est en guerre contre la puissance des ténèbres. Même avant, on était sous sa domination, c'était pas mieux, parce que le diable est venu pour dérober, égorger et détruire, tandis que Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie, puis qu'il l'ait en abondance. Puis l'abondance, mais c'est l'abondance des joies, des bénédictions que Dieu donne à son peuple. C'est pas nécessairement la richesse financière. Ça peut arriver qu'un chrétien ait la richesse financière, mais c'est pas le but pour tout le monde. Fait que là, ça nous dit dans 1 Pierre 5:8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Fait que lui, il cherche le trouble. Il cherche qui dévorer. Puis s'il voit un chrétien faire un péché, il en profite. Ça le dit, donnez pas accès au diable. Si on pêche, que ce soit à cause de nos paroles, nos agissements, peu importe ce qu'on fait, si notre cœur est rendu refroidi aujourd'hui, il faut regarder pourquoi. Il faut demander pardon au Seigneur, puis revenir être connecté, puis garder notre flamme pour le Seigneur. Parce qu'on lui, il s'asseye pour nous mettre à l'épreuve, puis nous rentrer dedans, puis nous démolir. Parce qu'il veut nous voler ce que Dieu nous a donné. Une autre source d'épreuve, les épreuves sont dues aux relations avec nos proches. Comment ça? D'habitude, on se marie, puis c'est pour le meilleur. Oui, mais la phrase est aussi pour le pays. Des fois, ça peut arriver qu'il y a le meilleur et le pays. Des fois, il y a les deux dans le mariage. Puis Paul, il en avait parlé. Puis, c'est excessivement rare qu'un couple n'a jamais eu d'épreuve en tant que vie de couple. S'il y en a eu, j'en connais pas. Les ceux que qui m'ont entouré, ils ont tous eu des épreuves. Ça a tout été. Il y a eu des très bons moments, puis il y a eu d'autres moments. C'est souffrant, c'est de la peine, c'est pleurer. Puis peut-être pas les deux qui pleurent, mais il y en a qui pleurent. Puis, tu sais, faire un effort. Paul y en parle dans 1 Corinthiens 7, 28. Puis il parle du mariage. Il dit, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Lui, dans son enseignement, l'apôtre Paul, il enseignait que c'était mieux de rester tout seul. Parce que dans ta vie chrétienne, tu auras des tribulations dans la chair si tu es marié. Pourquoi qu'on aurait des tribulations dans la chair? Mais tu as deux êtres imparfaits qui décident de vivre ensemble. Avec plein d'enfants qui viennent au monde, qui sont aussi imparfaits, qui là, ils vivent ensemble, veulent pas, 2, 3, 4, 5 dans la maison, 6, des fois 10, 12. Tout du monde imparfait, chacun tire sa couverture sur son bord, c'est normal qu'il y ait des problèmes. On travaille avec Dieu pour garder l'harmonie, mais on peut pas empêcher les épreuves dans tout cela. Les crises, des fois c'est dû volontairement, quand là, les enfants, il y en a qui se rebellent, puis que là, ils s'entêtent contre l'autorité des parents, ou des fois, c'est dû à la maladie, les souffrances, les peines à l'hôpital, puis tout ça, c'est des épreuves, là, on parle d'épreuves. Quand un enfant malade, ou le parent qui est malade, il y a de quoi qui marche plus dans la maison. Ça crée une épreuve. Fait que des couples, des vies de foyer sans épreuve, qui n'a jamais eu d'épreuve, je serais très étonné. J'en connais pas, moi. S'il y a quelqu'un qui sur Internet qui m'écoute puis qui est une famille parfaite, qui n'ont jamais eu une épreuve dans toute leur vie, mais m'envoyez-moi un courriel pour me l'expliquer, parce que moi, j'en connais pas. Puis ça fait partie, c'est naturel, cela. On n'a pas besoin de faire un effort pour que les épreuves arrivent. On n'a pas besoin de courir après les épreuves. Les épreuves, on dirait qu'ils vont venir tout seuls. Puis Dieu les permet. Comment se fait que Dieu m'a donné cette femme-là avec qui je me chicane souvent? Ben, ça, c'est dans le plan de Dieu. Je ne dis pas que la mienne, elle me chicane. Je dis pas ça. Je fais juste dire que ça peut arriver que quelqu'un pense comme ça. Ou c'est le contraire. Que la femme, elle se plaigne de son mari qui est ci, puis qui est ça, puis il est trop dur, puis il est méchant, puis il est sévère, puis il y en a d'autres même, il me bat. Il y en a qui des femmes qui se font battre. C'est des méchantes épreuves, c'est des affaires qu'on ne souhaite pas à personne. Puis Paul, il nous le dit, si vous vous mariez, vous aurez des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Fait que il y a plusieurs sources d'épreuves. Une autre épreuve, une autre place qu'on peut avoir des épreuves, il y a aussi les épreuves dues à cause du ministère ou à cause du travail que tu fais. Parce que il y a les risques du métier. On le sait, cette expression-là. Mais il y a bien des métiers qui occasionnent des épreuves, des souffrances, des peines à ceux qui travaillent dans ces genres d'emplois-là. Paul lui-même, il le dit dans 2 Corinthiens 11, 26, il dit fréquemment voyage. Lui, en faisait tout, fréquemment des voyages. Il dit, j'ai été en péril. À cause de ses voyages missionnaires, il a été en péril. C'était pas facile. Il a eu beaucoup d'épreuves. Il est en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, parce qu'il y avait, des persécutions que les Juifs persécutaient les chrétiens, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Fait que tu peux être dans le ministère, puis c'est loin d'être un ministère sans épreuve. Sa vie était continuellement en péril. Ça, c'est, on parle de quelqu'un qui travaille dans le ministère, mais ça peut, si on pense à quelqu'un qui travaille, mettons, dans une compagnie, c'est une fonderie, puis il fait 125 degrés là-dedans, Fahrenheit. Puis là, tu sues, puis là, t'as des éclaboussures de choses extrêmement bouillantes ou radioactives pesante, puis tu te l'échappes sur le pied. Des épreuves, là, ça n'a pas besoin de toujours être des paroles pour t'attaquer. Des épreuves, c'est toutes les souffrances, les peines. Il soude, les gens soudent, puis l'odeur intoxicante qui sort de sa soudure, qui respire ça, puis ça lui donne de tousser. Sa vie n'est pas facile à cause de ça. Mais tout le monde a des épreuves aussi qui viennent de l'environnement, des peines. En réalité, c'est les peines de tirer notre nourriture qui vient au bout de la ligne. On n'a pas les arbres qui nous poussent, puis les fruits qui sont tous là, qui poussent tout seuls, puis que là, on mange, puis on n'a même pas d'effort à faire. C'est, faut que tu forces, puis il faut que tu travailles, puis tu as des souffrances, puis des épreuves. Puis Dieu permet cela. C'est ça qui est le point. Tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, puis Dieu permet que tu sois dans des situations de même, puis il va servir de tes situations souffrantes pour changer ton caractère. Quels sont les résultats positifs des épreuves? Mais les épreuves bien gérées, ben tu peux les mal gérer, tes épreuves, puis réagir en mal, comme je disais tantôt, en critiquant, en chiolant, puis en te revengeant ses autres. Puis là, les gens, ils deviennent agressifs, amers, puis ils deviennent... T'es plus capable de rester à côté parce que c'est trop des réactions négatives. On peut mal gérer notre vie puis réagir de la mauvaise façon. Mais si on gère bien, puis on répond comme il faut, puis on réagit de la bonne façon dans nos épreuves, mais ça démontre, premièrement, pour un chrétien qui vit de la bonne façon ses épreuves, puis quand il vit ses épreuves, il dit gloire à Dieu, puis là, il va se mettre à prier pour que ses épreuves changent, mais il est en train de démontrer qu'il est fidèle à Dieu. Que malgré qu'il subit ses oppressions, puis ses attaques, puis ses épreuves de toutes les sortes, il reste fidèle dans sa foi. Un chrétien qui réagit comme faux est en train de démontrer sa foi aux gens. Les épreuves de notre foi, ça a des effets positifs. Paul lui dit dans 2 Corinthiens 12:12, les preuves de mon apostolat, lui il était apôtre. Les preuves, dire que j'étais un apôtre, il dit, ont éclaté ces preuves-là au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Paul, il était rendu apôtre, mais ça se démontrait aussi par les signes, les prodiges, les miracles. Mais sa patience à toute épreuve d'être capable de passer à travers ces situations quand il est en péril, puis il était capable de garder la foi, puis de persévérer dans la foi, malgré ses épreuves. Une autre chose que ça produit de positif, l'épreuve, mais les afflictions, quand elles sont bien gérées, les épreuves, quand elles sont bien gérées, ça nous amène dans la victoire. On voit ça dans Romains 5, les versets 3 et 4. Paul est en train de dire, nous nous glorifions même de nos afflictions. Fait quand ça va mal, t'es affligé, puis lui, il est fier d'être affligé. Wow! Ça, c'est rond. Quelqu'un qui est fier d'avoir de la souffrance, il est fier. Les disciples, quand ils ont été persécutés, là, puis qui avaient été empêchés de dire, les Juifs, ils ont dit, vous parlez plus de Jésus, puis là, ils les ont mis en prison, puis là, je pense qu'ils les ont fouettés. Les disciples étaient heureux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est que Dieu les a trouvés assez dignes de dire, mais vous allez souffrir pour moi. Youpi, je vais souffrir pour Dieu. Puis là, ils sont fait battre, puis ils étaient fiers. Mais Paul est en train de dire la même chose dans Romains. Il dit, nous nous glorifions de nos afflictions. Il était fier quand il était affligé, sachant que de l'affliction, ces épreuves-là, ça produit de la persévérance. Wow! Quand tu es attaqué et tu as des épreuves, ce que ça fait quand tu la prends sur le bon bord, bien entendu, ça va t'amener à être plus fort et être capable d'en supporter encore des plus fortes. Ça te renforcit. Ça te donne de la persévérance. Tu continues, tu persévères malgré que ça va mal. Puis à un moment donné, quand tu t'en sors, tu es content d'avoir traversé cela puis d'être sorti de ton épreuve. Puis là, tu es fier. Puis que là, ça te renforcit. Puis en plus, il dit, quand tu persévères, bien, ça produit la victoire. Voyez-vous? Fait que c'est important. Faut le comprendre que c'est important les épreuves, parce que ça nous donne de persévérer dans la foi en Dieu et de s'attendre que Dieu intervienne. Puis quand on s'en est sorti, on a la victoire, puis on est fiers, puis cette victoire-là, ça remplit notre cœur d'espérance. On a une confiance que Dieu est avec nous, puis que Dieu nous bénit, puis Dieu prend soin de nous, puis Dieu pourvoit, puis Dieu, il va être avec moi encore dans mes prochaines épreuves. Un autre point positif que ça fait, les épreuves dans notre vie, mais les victoires dans les souffrances qu'on subit, ça va encourager les autres autour de nous. Parce que les gens nous voient dans la situation qu'on est en train de vivre. On n'a pas des épreuves à tous les jours. Mais quand tu en vis de fortes épreuves, puis que les gens ont vu que tu as passé à travers ton épreuve par la foi, puis que tu en es sorti vainqueur, tu vas partager ces événements-là aux autres, puis les autres vont dire « Wow! Gloire à Dieu! » Puis eux autres, si ça va les encourager, que mec, eux aient des épreuves, ils vont aller de l'avant, puis ils vont garder la foi, puis ils vont... Fait que l'épreuve que tu as aujourd'hui va aider les autres à passer à travers de leur épreuve. Alors, regardez ça dans 2 Corinthiens 1, le verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. C'est ce qu'il est en train de dire. Si j'ai de la victoire, moi, aujourd'hui, ça va vous encourager. Si j'ai passé à travers par la foi dans mes épreuves, bien, mes épreuves vont servir à pouvoir vous encourager, puis vous allez être capable à votre tour de passer à travers parce que j'ai eu la victoire. Vous aussi, vous allez vous dire, je vais avoir la victoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas seul à avoir des épreuves dans ce monde. Des fois, on se sent seul, ça nous décourage. Mais on n'est pas seul. Premièrement, celui qui n'en méritait pas de souffrance, c'est qui?
Jésus.
Puis lui, sa vie, ça nous dit homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a souffert toute sa vie. Il n'a pas souffert juste à la croix. Toute sa vie, c'est une vie d'opposition. Peut-être que sa jeunesse a été de la persécution qu'il a reçue des autres. Peut-être qu'il a été frappé, abusé physiquement. Peut-être qu'il a vécu des souffrances. Mais ça nous dit qu'il a souffert en toute chose. Qu'il a été tenté en toute chose. Là, c'est les tentations. C'est pas juste les tentations de péché. Il a peut-être eu la tentation de s'en venger aussi. Parce qu'il était attaqué. on y pense pas jusqu'à où que ça peut aller, mais il y a eu toutes sortes de choses. Il dit « homme de douleur habitué à la souffrance ». Dans Ésaïe 53, le verset 10, ça nous dit « il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance ». Jésus, avais-tu besoin d'être brisé? Non, il était déjà parfait. Pourquoi que lui a été brisé par la souffrance? Ben, j'ai donné la réponse tantôt dans les autres versets, les raisons. Hein? Pour servir d'exemple, afin que nous aussi, qu'on ait la même attitude d'accepter la souffrance, puis de persévérer, malgré que lui, c'était Dieu, puis il a plu à l'Éternel, à Dieu le Père, de le briser par la souffrance. Puis ça nous dit dans l'autre verset, dans Ésaïe, homme de douleur habitué à la souffrance. Jésus s'y a passé par là. Bien, nous aussi, il faut s'armer de la même pensée. On va avoir à passer par la souffrance. Nous aussi, nous, on va suivre l'exemple de notre maître. Lui, il l'a fait, puis nous, on va le faire parce que il veut faire de quoi dans nous? Il veut nous changer, nous transformer. Puis ça va devenir un exemple aussi pour les autres. Fait qu'on est tout en train, en souffrant chacun de notre manière, puis en réagissant de la bonne façon, on est en train de se renforcer puis de devenir de plus en plus pur comme l'or qui est chauffé par les diverses épreuves. Voyez-vous? Tous les chrétiens du monde souffrent. C'est écrit dans 1 Pierre 5, 9. Quand il nous dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, ça nous dit tout de suite l'autre verset, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tout ce que vous êtes en train de vivre comme attaque du diable, mais tous les chrétiens dans le monde le vivent. Fait que vous n'êtes pas seuls. Jésus a passé par là, d'être attaqué, puis tenté par le diable, puis en est même mort de ses attaques, de ses souffrances. Il en est mort. Ils l'ont assassiné. Puis les apôtres avec. Ils sont morts assassinés. C'est des souffrances qu'ils ont vécues pour nous donner la force à nous, l'exemple à nous, de persévérer jusqu'au bout. Parce que tous les chrétiens ont des attaques du diable. Comment réagir lorsque nous sommes éprouvés? Comment je dois bien gérer mon problème? Comment je dois réagir pour s'en remettre à Dieu? La même façon que Jésus agit. Comment est-ce qu'il agit? Il a accepté premièrement, puis il priait. Il a gardé la foi, parce qu'il ne s'est pas dit, « Oh là, je suis tanné de souffrir, je lâche tout, moi. Je veux plus rien savoir. Lâchez-moi, je veux plus souffrir. » Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a gardé la foi, puis il savait aussi, en vue de la joie qui lui est réservée, l'autre bord, pas ici. Il a méprisé la croix. Ça lui a dit, « C'est pas grave, même si je... » Puis Paul lui a répondu une parole, il dit, dans le même sens, je suis prêt à mourir pour le nom de notre Seigneur Jésus. C'était des gens décidés, prêts à mourir pour Dieu, mais il n'est pas question qu'ils abandonnent.
Amen. Il s'est mis à la volonté de Dieu.
Comment réagir lorsqu'on est éprouvé? Mais il faut, là, j'avais toutes eu des bonnes réponses, mais là, dans le verset que je vais vous amener, c'est de suivre l'exemple d'Abraham. J'en ai parlé un peu au début de la réunion. Mais là, je vous relis un passage dans Hébreux, chapitre 11, verset 17 à 19. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Hein? Oui, Abraham a été mis à l'épreuve par Dieu d'offrir son fils en sacrifice. Ouais, mais Seigneur, c'est mon fils que tu as promis qu'il viendra au monde de moi et de Sarah, puis qu'il y aura une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer à travers de lui, puis que le Messie même va venir comme un de ses descendants, puis tu me demandes de l'offrir en sacrifice, mais il était mis à l'épreuve pour Dieu voulait voir jusqu'où est sa foi. Là, il dit, ils ont offert son fils. Il avait reçu la promesse que ce fils-là était pour être le fils. Puis là, il demande de l'assassiner, de l'offrir en sacrifice. C'est pas une affaire à faire, puis je pense pas que Dieu va demander de le faire. Il l'a fait là pour l'éprouver, mais il l'a pas laissé faire. Faut bien peser sur les choses. Faut pas vous penser que c'est normal qu'on sacrifie un humain. C'est pas de Dieu. Mais c'est par la foi, le verset 17, il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. C'est une épreuve. Une épreuve, c'est un test pour voir ta foi. Puis Dieu dit, je t'ai promis que c'était pour être à travers de cet enfant-là, puis là, je te mets à un test, offre-moi-le en sacrifice, assassine-le. Abraham n'a pas reculé. Il était, puis il s'en allait le faire. Parce qu'il croyait encore plus que de se dire, Dieu est capable même de le ressusciter d'entre les morts. Il me l'a promis que c'était pour être à travers cet enfant-là. Il n'est pas question que j'abandonne la foi. Dieu me l'a promis, puis il est arrivé même après que ma femme était stérile. Puis était rendue dans sa vieillesse, ménopausée, tout. Il n'y a plus rien qui marche. Puis lui non plus, il a 99 ans. Puis elle en avait 90. Ils l'ont eu. Gloire à Dieu, ça devait être la joie d'avoir l'enfant quand il est arrivé. Là, rendu à peut-être à 12 ans, il demande, offre-moi-le en sacrifice. Waouh! Il est rendu à 110 ans, mettons, et plus. Là, ça va-tu remarcher encore? Non, il a même pas cru que ça pourrait être un autre enfant. Dieu, il avait dit, cet enfant-là, qui va, fait que là, mis à l'épreuve, il y a été par la foi, puis il a accepté l'épreuve, puis il y a été. Puis le verset 19, il dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Il croyait que Dieu était capable même de le ressusciter. Si Dieu me le demande, il y a une raison. Si Dieu permet que j'ai cette épreuve-là, il y a une raison. Ma foi est éprouvée dans cette épreuve-là. Chacun de nous, nos épreuves que nous vivons, Dieu est parfaitement en contrôle. Il est ce que vous vivez là, il y a une raison. Puis Dieu est capable de vous en sortir. Puis Dieu a des promesses pour chacune des épreuves que vous êtes en train de vivre.
Amen.
Comment devons-nous envisager les épreuves dans notre vie? 1 Pierre 4,12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire. Ah, qu'est-ce que je faut que je fasse quand je suis éprouvé, je suis dans une fournaise, ça brûle, là, il fait chaud, ça va mal. Quand ça va mal, là, qu'est-ce qu'il dit de faire? Critiquer, chialer. Il dit de se réjouir. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.
Amen.
Quand Jésus va revenir et qu'il va venir chercher ses disciples, ce moment-là va être extraordinaire de voir Jésus face à face puis ils viennent de t'enlever. Tu es avec lui. Puis là, l'accueil, le sourire qu'il va nous faire, j'espère. Ben, pour ceux qui sont rendus là, oui. Parce que s'ils n'étaient pas contents, ils vont rester là. C'est pas tout le monde qui monte, ça, c'est sûr. C'est les 5 vierges folles, les 5 vierges sages, ça nous montre, c'est pas tout le monde qui rentre, même s'ils sont tous en train d'attendre. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais là, on rentre, puis il dit, mec, on va en avoir de la joie. Fait qu'en attendant, quand tu es dans l'épreuve, réjouis-toi, parce que le moment où il va venir te ramasser, puis il va t'amener avec lui, tu vas avoir une joie et un bonheur que personne ne va pouvoir t'enlever. Tu vas être heureux, heureux, mais heureux. Il n'y a rien de... C'est pareil comme une femme qui est en train d'accoucher, elle souffre, mais quand l'enfant est venu au monde, il y a de la joie dans son cœur. Mais les souffrances, ça fait mal, puis on a le goût de pleurer, mais on persévère dans la foi, puis quand que tout est passé, là, on va dire, Alléluia, merci Seigneur, je suis rendu l'autre bord, puis là, on glorifie Dieu. On va glorifier Dieu de cela. Puis en plus, tout, on va avoir des récompenses à cause des épreuves qu'on a passées, puis qu'on a gardé la foi, à cause du travail aussi. Les récompenses attendent ceux qui sont fidèles jusqu'au bout. Apocalypse 2, le verset 10. Dieu parle à son Église, puis il dit, « Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. » Il me semble, là, quand Dieu dit ça, là, tu dis, « Aïe, aïe, Seigneur, il n'y a pas un autre plan pour moi. » Ben, Dieu dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Il veut pas qu'on craigne la souffrance. Ça doit pas arrêter un chrétien, la souffrance. La souffrance, oui, ça fait mal, mais ça renforcit quand elle est prise sur le bon bord. C'est ce que j'ai dit tantôt. Voyez ça comme un positif. Puis rendez gloire à Dieu, puis réjouissez-vous de ce que vous avez part aux souffrances de Christ. Là, il dit, voici que le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Fait que même la prison, les coups de fouette, Paul y a été lapidé. Lapidé, ça fait pas du bien. Tu fais garrocher des roches, là, jusqu'à temps que tu meurs, là, pis t'es laissé là comme mort. Il pensait qu'il était mort, puis il s'est relevé, mais quand même, là, je pense pas qu'il était heureux, c'était sur le coup. Mais c'était pour le Seigneur qui était là, il a accepté, puis après ça, le lendemain, il devait être le visage tout enflé, puis il était encore en train d'évangéliser. C'était vrai. Et regardez bien la fin de ce verset-là. Il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir, le diable va vous mettre à l'épreuve. Il a pour plan de vous éprouver, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Là, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est ce que Dieu est en train de nous dire, là. Sois fidèle dans tes épreuves jusqu'à la mort.
Amen.
Puis je te donnerai la couronne de vie. Alléluia.
Gloire,
êtes-vous prête à souffrir? Non, pas prête à souffrir, mais si on a la souffrance, n'aie pas la crainte de cela, de ces épreuves-là. Sois fidèle jusqu'à la mort. Laissez-vous pas voler. C'est le diable qui vous attaque. On n'abandonne pas, puis on va glorifier Dieu jusqu'au bout. Puis le dernier verset dans l'Apocalypse, le chapitre 7, le verset 17. Nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Car Dieu il est en train de vous conduire à sa consolation. Apocalypse 7, 17, il dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra. Les paîtres, c'est le berger qui s'occupe de ses moutons, ses brebis. Nous sommes ses brebis. Nous sommes ses enfants. Le berger, Jésus, il est en train de nous paître. Ça veut dire, un troupeau de moutons, puis le berger, il est là avec son bâton, puis son chien qui court autour. Puis le troupeau, il est gardé par le berger. Ça nous dit, Jésus, il est au milieu du trône, il est en train de nous paître. Ce que nous sommes en train de vivre présentement, Jésus le comprend, puis il le voit parfaitement. Il voit tout ce qu'on est en train de vivre présentement. Il est en train de nous paître. Il est en train de gérer notre vie puis de nous amener ce qu'il veut nous amener. Puis il permet que les souffrances soient là, mais il y a toutes sortes de buts positifs dans la souffrance. Il sert de ça pour nous transformer. Il dit, l'agneau est au milieu du trône, les paîtra, puis il les conduira. Là, on est guidé par Jésus. On passe dans des coins sombres, comme dans le psaume 23, il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Jésus est avec nous dans nos souffrances. Il nous paie, il nous conduit aux sources des eaux de la vie. Sont où ces sources-là? Ils nous attendent. On est déjà abreuvé de ces sources par le Saint-Esprit, parce qu'il y a en nous une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et un jour, on va s'abreuver de la source qui sort du trône de Dieu. Puis là, ça nous dit, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Merci Seigneur, des paroles de consolation. Dieu les voit, vos souffrances. Il voit ce que vous êtes en train de vivre, puis il est en train de vous paître puis de vous conduire. Puis un jour, il va essuyer toutes les larmes de nos yeux. C'est la consolation. La consolation va venir encore un peu de temps. Jésus va revenir. Puis là, on sera consolé. Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour les révélations, pour nous aider à comprendre le but de la souffrance et des épreuves. Puis garde-nous dans la foi. Peu importe ce qui arrive, Seigneur, peu importe ce qu'on aura traversé dans ce monde, garde-nous, conduis-nous à ces sources d'eau vive qui nous attendent, puis au jour où tu vas enlever toute l'âme de nos yeux. Qu'on puisse grandir dans la foi dans toutes ces choses, puis qu'on puisse se renforcer, puis avoir une attitude de vainqueur, de quelqu'un qui persévère jusqu'à la fin. Nous remettons nos ventres à tes mains dans le nom de ton fils Jésus. Amen. Amen.